L'espace, frontière de l'infini, gloubli-boulga d'étoiles comme un gigantesque squirt de matière. Dans ce lieu d'aventure et de mystère, branle ton Spock, la mission intersidérale de la 90.8e galaxie. Sa mission ? Explorer, découvrir, comprendre et apprendre, et peut-être un jour, mettre le doigt sur le mystère de la vie. Marty, capitaine cartilagineux, Captain Flammarion, clio-archiviste du futur, Gilu, biochimiste dans la limite des stocks disponibles, Adriman, que je vais bien finir par lui écrire un rôle un jour, Tangurk, technoscribe terrifiant. Dans cet espace infini, voici leurs aventures.
Poussez, clio-archiviste, mettez le plus profond, là, je sens rien, là.
Ah, bon sang, je fais ce que je peux, capitaine, mais ça passera jamais. Ah,
bordel, s'il était pas aussi gros aussi.
Attendez, peut-être que si on pousse par là...
Ah, rien à faire, allez, c'est toujours coincé. Et en plus, ça gigote.
Non, mais par tous les diables, je fais ce que je peux, mais... Je tiendrai pas,
non, il m'a mordu.
Flammarion, Tangurk et Marty, je vous cherchais, justement. Dites, vous auriez pas vu Pompon, mon caniche arachnide nain? Je crains de l'avoir... Pompon!
Alors, Gilus, ce n'est pas du tout ce que vous croyez.
Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de branler, essayer de mettre... De faire entrer Pompon dans le moteur à hyperface du vaisseau?
On peut tout vous expliquer, et ça n'a absolument rien à voir avec cette bouteille de spatiorum.
Voilà, ni avec cette mousse bleue de l'espace.
Voilà, expliquez, Technoscribe, s'il vous plaît. Allez.
La science!
Nous essayons tout simplement de faire entrer Pompon et sa petite roue dans le moteur à hyperphase pour court-circuiter le moteur et arriver en avance à notre destination.
Mais pourquoi faire?
Arriver avant la fin des Happy Hours à la cantina des Forces Libres.
Sérieusement?
Techniquement, ça peut marcher. Regardez, j'ai fait un dessin à la craie.
Vous vous rendez compte qu'actuellement, on est en hyperphase, à la limite du continuum espace-temps?
Oui. Oui, oui.
Et que la moindre perturbation dans les circuits peut nous faire sortir du continuum et de la réalité telle que nous la connaissons?
Écoutez, j'ai lu, d'après mon dessin à la craie...
À la craie du cul, oui. Vous voulez dire que vous voulez faire quoi? Voyager dans le temps?
Enfin, j'ai lu, allez, ne soyez pas si rabat-joie et... Tiens, passez-nous donc les mini-carottes de Pompon, voulez-vous...
Non, mais vous êtes taré.
Mais non.
Tout ça parce que vous n'aimez pas mon animal de compagnie, non, espèce de sadique.
Oui, enfin, je vous rappelle que Pompon, avant d'être un caniche arachnide nain, est avant tout un space garou.
Ouais, et que ce truc a câliné à mort une dizaine de membres d'équipage la nuit dernière.
Ouais, calmez-vous, mon vieux, rien de grave à nous arriver...
Rivendell, l'intelligence artificielle du Branton Spock, écoutez-moi. Alarme, perturbation dans les moteurs hyperphase. Propulsion hors de la réalité, telle que vous la connaissez, dans 3.
Et voilà.
Genre 2. Merde, on avait pourtant fait un dessin à la craie. 1.
Bonne année!
Allez, propulsion.
Propulsé hors du continuum espace-temps tel que nous le connaissons, c'est-à-dire un genre de tube digestif disco sorti des années 80, l'équipage du Branton Spock se trouve soudain dans un immense espace blanc, virginal, où le seul être vivant apparaît est Pompon, le caniche arachnide nain télépathe qui les regarde de ses grands yeux humides.
Par la barbe de ma grand-mère, où est-ce qu'on est?
En dehors du continuum espace-temps. Hein? Nous avons dérivé sur les flots infinis des probabilités.
Ouais, ça veut rien dire.
La science!
Je vous attendais depuis bien longtemps, Branton Spock.
Pompon? Tu parles? Oh mon tout petit bébé canine arachnide!
Non, il manquait plus que ça.
C'est chelou ça. Qui êtes-vous?
Je suis Pompon, l'omniscient.
Fascinating.
Je suis le grand ordonnateur. Je veille sur les galaxies depuis des éons. J'observe vos évolutions, vos guerres, vos batailles, vos tragédies. Mais aussi vos moments de bravoure, vos honneurs et vos gloires.
Waouh, et bah, ça fait du boulot.
Oui, on va jouer aux 35 heures avec un 13e mois.
Ah oui, ça va.
C'est un travail très intéressant, nous avons un CE fantastique, une crèche pour les petits. Mais une chose m'échappe toujours.
D'où proviennent vos mini-carottes ?
L'amour. L'amour, l'amour est une constante, éternelle, infinie, traversant les âges, les galaxies, les paradigmes et le continuum lui-même. J'aimerais en apprendre plus sur l'amour. Et vous allez m'aider ?
Ah ok, bon allez, tous à poil.
C'est parti ! Love, to love you baby !
Pas de cette façon, galaxien.
Oh bah... Ah,
merde.
Mais comment dommage. Alors ?
Votre équipage est l'un des plus mixtes des galaxies libres. Un terrien, un protoplasmide, une stellaire et enfin un synthétique.
Oui, c'est le but de notre mission. Effectivement, Branton Spock est une équipe pluriculturelle et mixte de tous les galaxiens libres. On appelle ça le programme Benetton.
Et ouais.
Vous allez donc, chacun en tant que représentant de votre espèce, me donner une définition de l'amour. Je vais ensuite les compiler et enfin j'espère pouvoir comprendre le mystère de cette force inaltérable et toute puissante et en apprendre un peu sur vous, les galaxiens.
Un projet ambitieux ?
Oui. Ce lieu est un nœud dans le continuum où vous pourrez rejoindre tous les dieux de la galaxie par cette échelle de pompiers là-bas. Vous allez devoir partir, Branton Spock. Équipez-vous de ces bandeaux mémoriels qui feront vous ressembler à des profs d'aérobic. Et donnez-moi votre définition de l'amour.
Allez, ok. Ça me paraît être un bon deal.
Ouais, ça tout ça est incroyable. Je vais prendre des photos, je crois.
Ah oui, cool. On fait un selfie avec la réalité.
C'est ainsi que, quelques instants plus tard, l'équipe du Branton Spock emprunte son premier nœud du continuum et sort dans la réalité choisie par la capitaine Flammarion pour découvrir sa définition de l'amour.
Waouh, ça caille ici. Vachement froid.
Tout est si bruyant et lumineux.
Ah, on est où là ?
C'est comme un gigantesque marché des étoiles. Ouais, on est sur les docks externes d'un immense vaisseau. Il y a tellement d'animation.
Eh oui. Je suis née dans les étoiles en 795 après la seconde veillée. Mon peuple est un peuple de nomades, le matriarcat d'Orion. Nous obéissons à la grande marche et ne mettons que très rarement les pieds sur les mondes tangibles. Moi-même n'ai connu ma première planète qu'à l'âge de 29 ans. En fait, au moment où je m'enrôlais dans les missions diplomatiques des Républiques Solaires.
Hein ? Vous voulez donc dire que cet endroit est...
Un vaisseau-monde, habitat des stellaires, le MV Arbitas, là où je suis née.
Oh, en tout cas, c'est magnifique. Oh, regardez ces forêts modulaires. Oh, les sommets enneigés de ces condensateurs auxibules.
Et tous ces gens. Franchement, je pensais pas voir de marché aussi vaste en dehors des spatioports ou des mondes habités.
L'amour est un concept bien planétaire. Nous, les stellaires, suivons un mode de pensée différent. Nous avons la Grande Marche.
La Grande Marche ?
Que savez-vous de mon peuple ?
Oh, pas grand-chose. Ouais, tout ce qu'on a appris à l'université, en fait. Donc vous êtes un peuple nomade, exilé de différents mondes.
Et vous suivez aussi une route secrète dans les étoiles, non ?
Et je sais que les voiles de vos vaisseaux-mondes se gonflent au vent solaire.
Tout à fait. Et nous provenons tous d'une seule et unique galaxie, la 63e.4.
La 63e.4, vous voulez parler de...
Celle qui a disparu ?
Oui, précisément. Nos ancêtres, les Manciens, étaient de grands conquérants. Ils ont fait plier toutes les galaxies adjacentes, de la 63e.1 à la 63e.9. Les cohortes d'immenses drakkars des étoiles ont même poussé jusqu'au début de la 64e, mais un jour...
L'effondrement de l'Empire Mancien, c'est donc ça...
Toutes les étoiles, toute une galaxie effacée des strates en un battement de cils.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il existe un aussi grand trou dans le cosmos.
Le gouffre mancien.
La chute de notre empire. Du jour au lendemain, tout s'est effondré. Littéralement. Toutes les galaxies que nous avions conquises se sont écroulées sur elles-mêmes, de la première à la dernière. Elles se sont regroupées en une boule, un astéroïde d'antimatière, éjecté à travers l'espace, fonçant comme un bolide sur son tapis d'étoiles.
Les fameuses galaxies hurlantes.
Oui, le métal hurlant. Ces galaxies volantes hurlent et parcourent l'espace dans un but que nous ignorons. Nous errons depuis dans l'espace, sur nos vaisseaux-mondes, à la recherche des êtres chers que nous avons perdus de veillée en veillée.
Eh ben, ça doit faire une trotte.
Nos pisteuses progressent jour après jour sur leur planche des étoiles, aux voiles solaires, tendant l'oreille aux cris ténus des galaxies hurlantes. C'était mon premier métier avant que je ne rejoigne les Républicains. Tenez, c'est là où j'habitais, sur le port. Dites, vous essaierez bien de la planche des étoiles avant de retourner voir Pompon, le grand ordonnateur.
Riche de la définition du capitaine Flammarion sur l'amour perdu des stellaires, l'équipage suit maintenant Tengurk et Gilu, qui les emmène sur un monde bien étrange.
Bon. Bah voilà, du coup. Je crois qu'on y est, hein, Gilu.
Bah ouais, c'est à nous, je crois.
Tengurk et Gilu, mais pourquoi vous nous avez amenés sur un monde en guerre?
Ouais, non mais heureusement que l'échelle magique de Pompon, le grand ordinateur galactique, a nous amené à l'abri, là.
Accouchez-vous!
C'est pas passé loin.
Ouais, waouh, vous avez vu celui-là? Putain, c'est un beau tir de balistique, hein. Je me débrouille vraiment pas mal.
Mais de quoi parlez-vous? Bon, Tengurk, Gilu, pourquoi nous avoir menés ici?
Et surtout, quel rapport avec l'amour?
Bon, venez voir.
Voir quoi?
Ici, là, juste là.
Quoi, ce type qui traîne, là?
Un pauvre bougre.
Le soldat en armure, qui est là, tout seul, par terre, sur le sol brûlé d'une planète désertique, quoi?
Et sa tête, là, sa tronche, elle vous dit rien? Ça vous rappelle rien?
Bah, comment ça?
Bah, enlevez son casque! Allez, soyez pas timide, il va pas vous mordre.
Ok, alors...
Bon sang, Tengurk, mais c'est vous?
Eh ouais, c'est moi. Enfin, c'est pas directement moi, parce que moi, je suis là. Disons que c'est plutôt... Genre un autre modèle, quoi.
Un autre modèle?
Bah ouais, je suis un synthétique, mais un synthétique de guerre.
Vraiment? Je pensais que vous étiez un genre de... Bah en fait, je vous avais jamais vraiment considéré comme autre chose que... Tengurk, quoi.
Le Tengurk 2000, conçu par et pour la guerre, le fleuron de notre technologie de clonage.
Quoi, comment ça, notre technologie de clonage?
Comment dire?
Eh bah, c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour ça qu'on est sur cette planète, précisément.
Vous voulez dire?
Asseyez-vous.
Iyugan, mon monde. Ce monde est mon monde de naissance, si on peut dire.
Une ancienne royauté. En guerre depuis des générations entre deux empires. Enfin, bref, vous voyez le tableau, quoi.
Ouais, le frère tape sur le frère, la fille tape sur la mère, je te tue, tu me tues par la barbichette, le premier de nous deux qui rira sera une grosse tapette, blablabla, blablabla. Bla.
Jusqu'au jour où il ne resta plus qu'un homme, plus d'hommes valides pour se battre, et le royaume fit appel à nous.
À nous?
Ouais, aux généticiens pseudo-plasmides, plus précisément l'équipe de mon laboratoire. Leur requête était simple, construire le combat, le soldat ultime, le soldat parfait, le soldat qui se battrait contre la guerre elle-même.
Ouais, et alors?
Bah, et alors on l'a fait, voilà, Tengurk.
Salut!
Salut!
Le modèle Tengurk répondait à leur demande. Il luttait contre la guerre, il serait effectif tant que la guerre aurait lieu sur le monde, nous avions répondu à la commande du royaume.
Ok, et que s'est-il passé?
Bah, une fois que les usines ont été installées, moi j'ai commencé à faire mon taf, j'ai commencé à faire la guerre contre le royaume d'en face. On a été super efficaces, moi et les autres gars. On a tué les soldats, pacifié les populations, on a gagné la guerre. Il n'y avait plus qu'un seul royaume, qu'un seul drapeau.
Bah et alors, du coup tout était bon, non? Rideau, c'est la fin?
Pas vraiment, cocotte. Il restait nous, les soldats, programmés pour faire la guerre. Alors on a continué à la faire, la guerre, mais à nous-mêmes, jusqu'à ce que la guerre stoppe.
Quoi? Mais c'est horrible! Et puis c'est complètement con!
J'avoue que c'est moyen globe.
Et pourquoi n'avez-vous pas décidé d'intervenir, vous? Pourquoi n'avez-vous pas fermé vos usines, annulé le projet?
Bah en fait, ça nous a pas été demandé, en plus c'est contraire à notre éthique. On intervient uniquement si... on intervient jamais après que nos prototypes aient été livrés. Et en plus de ça, tous les habitants du monde se sont barrés depuis longtemps, donc on garde juste ça comme un exemple de ce qu'il faut pas faire et pas manipuler dans la génétique.
Oh ouais. Vous m'enlèverez pas de l'idée que vous êtes comme une belle brochette de connard.
Ah ouais, tout à fait. Bah, c'est pourquoi j'ai quitté mon job pour rejoindre les forces libres de République Solaire, quoi. Et donc, le branle-ton Spock. Ah. Mais en chemin, je me suis arrêté sur cette planète.
Pourquoi faire?
Bah, réparer mes erreurs. Je voulais essayer de sauver les synthétiques, mais...
Mais il n'a trouvé que moi, planqué dans une tranchée en train de pleurer sur mon fusil. Les autres ne sont pas vraiment ouverts d'esprit, ni même doués d'esprit tout court.
Ok, mais vous, Tengurk, qu'est-ce qui vous différencie?
Un léger problème de conception. Je suis un genre de rebut, si vous préférez.
Ah, tu...
Oh là là, bah écoutez, des fois, vaut mieux être un débile idéaliste hein, qu'un robot assoiffé de forme, mon petit vieux.
C'est beau ce que vous me dites, Capitaine, ça me touche. Enfin voilà pour la petite histoire.
Je le pense.
Quant à l'amour, nous, les pseudoplasmides, avons une définition de l'amour particulière.
C'est-à-dire?
Bah, on considère un peu comme une tâche, un modus operandi que nous choisissons et suivons jusqu'au bout de notre vie. Une fois que nous l'avons atteint, c'est l'illumination, un genre de nirvana. Et nous pouvons enfin mourir et rejoindre l'État uni. Mon amour à moi, ma voie de l'amour, est de réparer mes erreurs commises et de rendre l'univers un poil meilleur. En d'autres termes, mon amour, c'est Tengurk.
Ah, j'ai lu mon vieux, ça. Ça me fait toujours un pincement au cœur quand vous dites ça. Moi, par définition, je suis un synthétique, je suis juste une espèce de robot qui est incapable d'aimer ou d'avoir des sentiments ou ce genre de trucs qu'ont les biotiques comme vous. Enfin, si l'homme tofu dit qu'il m'aime, ça me va. Et puis, de toute façon, c'est le seul qui m'ait jamais tendu la main, alors...
Oh, merde, c'est la plus belle chose que vous ayez dite depuis qu'on se connaît.
Ah bon, c'était pas bite.
C'est beau, Oh là là.
Faites pas cette tête, les gars. Quoi, vous êtes pas jouasse?
Non, mais c'est toutes vos histoires aussi, là. Ah, ça me rend triste. Je suis un sentimental, bordel, qu'est-ce que vous voulez? On va quitter cette planète parce que j'ai plus envie de prendre des tirs de roquettes sur la margoulette, là, et puis, voilà, mais ça va être mon tour. Alors, comment on met ce bandeau déjà? Ah, oui.
L'échelle dimensionnelle débouche sur une petite planète grise, satellite d'un monde aux 12 couleurs fanées. Tangurk le synthétique jette un coup d'œil interrogateur à Flammarion, mais la belle stellaire hausse ses graciles épaules. En compagnie de Guilleux, le pseudo-psalmide, tous trois descendent à la suite du capitaine Marty, le terrien, sur son étrange monde sans couleur.
Nous allons à travers une jungle basse, aux végétaux gris et froids, dont les branches cassantes bourgeonnent en fleurs de béton. De tout le voyage, le capitaine Marty ne dit mot.
Nous débouchons sur une petite clairière, au clair de multiples lunes. Là se dresse une statue.
C'est une femme lascive, une humaine, vêtue d'un drapé magnifique et environnée de fleurs aux couleurs vives. La femme de pierre a l'air mutin, nous regarde, les yeux pétillants. Je crois entendre un rire, sentir un parfum.
La statue est colorée, incroyablement colorée. Il semble même qu'elle ait pris toutes les couleurs du monde, les synthétisant en une robe magnifique.
Il nous paraît maintenant évident que la statue est une tombe.
Marty s'assoit et ne dit rien. Il sort de sa poche un éclat de myrmirande qu'il a récupéré plus tôt sur mon vaisseau monde et le glisse dans les cheveux de la statue. Aussitôt, ils prennent de délicates nuances de blond et de lapis.
Elle aurait aimé cette couleur. Elle aimait toutes les couleurs, en fait. Et je les lui ai toutes promises, à elle qui ne peut plus voir. Mais bon, bien malin celui qui peut dire combien de couleurs il y a dans la galaxie.
Finalement, après ces différentes pérégrinations, l'équipage du Branleton Spock retourne au nœud du continuum où les attend Pompon, le grand ordonnateur stellaire.
Ah, Branleton Spock, vous êtes de retour. Alors, avez-vous fait l'expérience de l'amour?
Ouais, on a essayé, quoi. Reprenez nos bandeaux mémoriels.
Non, ce ne sera pas la peine. Ce ne sont que de bêtes bandeaux de joueurs de tennis. Ils n'ont aucune propriété mémorielle ou quoi que ce soit.
De quoi?
Oh, l'arnaque!
Pompon, là, vous voulez dire que...
Je veux vous dire que Pompon n'est pas vraiment un caniche hamster tarantule qui parle. Vous êtes bien dans un nœud du continuum espace-temps, oui. Et je suis bien une entité, mais réelle ou de votre esprit, qui peut le dire? Et après tout...
Est-ce bien vraiment important?
Que voulez-vous dire?
que la réalité dépend surtout du point de vue selon lequel on se place.
Et
qu'il est manifestement dangereux et pas très malin de coller ses doigts dans un moteur à hyperphase quand on est déjà bien éméché.
C'est pas faux.
Mais vous n'allez pas tarder à vous réveiller, ne perdons pas de temps. Qu'avez-vous appris lors de vos voyages ?
Sur l'amour ?
Et tout le reste ?
Eh bien...
Que c'est pas forcément drôle.
Ça peut même être carrément triste.
Ouais, ça fait un peu mal.
Mais sans ça, je crois pas qu'on arrive vraiment à avancer.
C'est un peu comme de l'eau sur une terre sèche.
Ça fait germer et donne le meilleur de nous-mêmes.
Wow, on serait pas en pleine pub des enfoirés, là ?
C'est vrai, vous avez tous un peu raison, mais ne tombons pas dans le pathos facile. Ah, l'amour, j'ai beau être une entité universelle, intemporelle et immortelle, je n'y comprends pas grand-chose. Dieu, diable, démon, des êtres supérieurs aux intelligences artificielles les plus complexes, nous ne sommes finalement rien par rapport à ce simple pouvoir, stupide, banal et idiot de vous les galaxiens, qu'est la force d'aimer. Vous pouvez être traîné dans la boue, mortifié dans vos chairs, brûlé à l'intenable chaleur des volcans du destin. Toujours l'amour demeurera intact en vous et vous poussera à gravir des montagnes, à sillonner des océans d'étoiles, à aller voir ce qui se cache là-bas, derrière les innombrables collines. Et à la fin, vous mourrez. Après une seconde, une heure ou mille ans, vous mourrez. Mais quelle importance en fin de compte, car dans votre vie, forcément, vous aurez aimé. Et à la fin, il ne reste que l'amour dans le tamis de vos vies. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette 5e ou 6e ou 7e, je ne sais plus, aventure du Branton Spock. Nous espérons qu'elle vous a plu. Sachez avant tout qu'elle a été faite avec amour, comme tout le reste. Passez de bons moments, de joyeuses fêtes. Nous vous aimons et surtout, vous, n'arrêtez pas d'aimer. A bientôt dans les étoiles.
Thank you.